Bonjour, nous allons donc passer à la deuxième partie de cette journée anniversaire sur l'encyclopédie en ligne des violences de masse. Je suis désolée que vous me voyez autant, hein, mais vous avez bien compris que dans la première partie, c'était improvisé. J'ai remplacé au pied levé, comme j'ai pu, Raymond Kevorkian. Donc maintenant, je fais le travail qu'on m'avait demandé de faire, c'est-à-dire de présider à cette deuxième table ronde. Et donc nous allons maintenant parler de choses, d'ailleurs, qui sont déjà intervenues. Et d'ailleurs, Daniel Delame est déjà intervenu tout à l'heure, fort justement, sur les violences ethniques et ou religieuses, et sur cette idée qui est déjà aussi venue, l'idée de l'approche comparative. Qu'est-ce que ça veut dire que comparer? Donc, Daniel Delame d'abord, puis Christophe Jaffrelot vont nous présenter leur terrain, si je peux m'exprimer ainsi, l'Afrique des Grands Lacs et l'Asie du Sud-Est, et plus particulièrement l'Inde pour Christophe Jaffrelot. Et puis ensuite, on fera une synthèse de cette journée. À vous, Daniel.
Merci. Avant même de me présenter de manière un peu plus précise, tout simplement dans le but de rendre mon approche plus compréhensible, je voudrais évoquer la personnalité d'Alison Desforges, qui est morte accidentellement il y a quelques semaines dans un accident d'avion. Alison était une historienne de très haut vol et de grand calibre qui avait dédié toute sa carrière à la défense des droits de l'homme en Afrique et plus particulièrement au Rwanda, où elle était devenue persona non grata à partir du moment où elle avait commencé à pointer des actions, disons, regrettables de la part de l'actuel gouvernement. Je voudrais aussi évoquer deux personnalités qui ont subi des avatars un peu semblables, à savoir le tout grand historien Jan van Sina, qui n'a plus été trop bien vu à partir du moment où lui aussi s'est soucié de mettre en lumière une perspective historique complète et aussi proche des faits que possible. Et enfin, le cas assez exemplaire de Gérard Prunier, qui est sans doute mieux connu en France, dont l'ouvrage sur la genèse du génocide a été très favorablement accueilli par le gouvernement rwandais actuel, et la traduction qui en est venue ensuite agrémenté d'un épilogue ou d'un chapitre supplémentaire évoquant les massacres perpétrés par le FPR, en a fait une personnalité beaucoup moins appréciée. Ceci dit tout simplement parce que je suis parfaitement consciente qu'en France, la question du génocide des Tutsis au Rwanda est devenue l'objet de querelles d'école, et que je tiens à me situer tout à fait en dehors de ces arguties. Je travaille sur le Rwanda depuis 36 ans. Bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai fait presque toute seule la bibliographie nationale du Rwanda, ce qui veut dire que j'ai lu énormément sur ce pays. J'ai ensuite fait un terrain prolongé en anthropologue, en milieu rural, dans les années qui ont immédiatement précédé le génocide. Alors, il s'agissait d'une étude holistique, c'est-à-dire l'abord d'une, ce qu'on appelle communément une communauté, sous tous ses aspects, ce qui impliquait une perspective historique et une mise en contexte à la fois nationale et plus largement régionale, voire même, puisque j'étudiais les dynamiques de changement social, l'approche de la mondialisation à travers une petite colline éloignée du bout du monde. Eh bien, à partir de cette connaissance qu'on peut avoir d'un pays, il n'est pas possible d'adopter sans nuance une perspective ethnique pour expliquer le génocide des Tutsis au Rwanda et les meurtres politiques que j'évoquais tout à l'heure qui l'ont accompagné. Ça a été très choquant pour moi quand, rentrée en Belgique depuis peu, au moment du génocide, j'ai entendu parler de querelles tribales, de haine séculaire et autres, excusez-moi, stupidités. Il me semble qu'il s'agit là d'un racisme primaire visant à ravaler l'Afrique dans des querelles qui n'existeraient plus ici, et je peux vous attester, comme Belge, que cela existe. Bien. Alors, que faut-il prendre en considération pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda? Il y a, je pense, une prise en considération du mode de gouvernement local antérieur à la colonisation qui doit être étudiée dans le détail, c'est-à-dire l'histoire interne du pays, la manière dont l'entreprise coloniale s'est greffée sur un mode de gouvernement et, dans ce cas-ci, l'a radicalisée. Ça a d'ailleurs été souvent le cas au moment des colonisations, que des modes de fonctionner existants soient détournés à travers la nomination d'autres chefs qualifiés faussement de traditionnels et que les régimes en place soient fortement durcis. Ça a certainement été le cas au Rwanda, où les pères blancs d'abord, et ils n'étaient pas tous belges, s'alliant aux Belges qui étaient fort peu nombreux au Rwanda. Je vous signale qu'en 1960, il y avait 600 étrangers en tout et pour tout au Rwanda. Et donc les pères blancs et les Belges ont trouvé des motifs communs d'accentuer la domination de l'élite, et je ne dirais pas des Tutsis, de l'élite locale, et petit à petit, ils ont qualifié cette élite de Tutsi. Ils ont donc racialisé une catégorie sociale à laquelle il était possible d'accéder. Dans les langues bantoues, il n'y a pas de trace du mot Tutsi, et donc ce mot est sans doute d'une origine étrangère, mais on sait aussi quelles conséquences le fait de dire que les Tutsis étaient arrivés plus tard, quelles conséquences ce fait a eu sur la fabrication de l'idéologie génocidaire. Donc, on n'ose plus trop l'aborder. Par contre, le mot « Hutu » dans les langues bantoues réfère souvent à une situation d'inférieur social, de subalterne. Il y avait donc ce qu'on a appelé plus tard des petits Hutsis, il y avait des grands Hutus, pas au sens de la taille, mais au sens social. Les historiens de l'Europe vous diront aussi qu'il y a une esthétique de l'aristocratie en Europe, et cela se trouve ailleurs dans le monde. C'était aussi le cas au Rwanda. Et donc, sur la question des types physiques, ces types étaient le plus souvent remarquables, mais dans le sens de pouvoir être constatés, dans les milieux de la cour. Au niveau de la population, malgré tous les mélanges qui ont eu lieu, et il y en a eu beaucoup, ces types physiques n'étaient plus si facilement discernables ni à l'époque coloniale, ni dans la suite. Et ce sont les catégories sociales qui tenaient lieu d'ethnie pour une grande partie. Donc, prise en compte des effets de la colonisation sur l'histoire locale, de la manière dont les deux histoires s'imbriquent, et histoire ensuite de la décolonisation telle qu'elle s'imbrique dans la problématique européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons un changement des idéologies au niveau de l'Europe. Et cela s'est très fort marqué au Rwanda, avec un passage peut-être un peu tardif d'une idéologie élitaire à une idéologie plus socialisante. Cela s'est traduit également dans la Congrégation des Pères Blancs, qui a soutenu progressivement la montée d'une élite Hutu, c'est-à-dire qu'il ne fallait plus être fils de chef pour accéder à l'école. Mais attention, à quelle école? Quand on n'était pas fils de chef, sauf cas exceptionnel, on n'avait accès qu'au séminaire. Et donc, dans les séminaires, on s'est déjà trouvé à la fin des années 50 devant des conflits à caractère ethnique entre un clergé élitaire dit Tutsi et un clergé non élitaire qui était Hutu. Cela s'est traduit par un soutien de l'Église catholique et de la Belgique à un mouvement social très proche du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, auquel le premier président du Rwanda était affilié. Grégoire Kayibanda fit un séjour en Belgique. Et c'est peu de temps après que ce fameux manifeste des Bahoutous a été publié. À ce manifeste des Bahoutous, les milieux proches du roi, du Mwami rwandais, ont publié une réponse qui n'était pas moins raciste et qui est rarement citée. Ensuite, fait assez intéressant, au moment, comme vous le savez sans doute, la révolution rwandaise s'est produite avec l'appui même militaire de la Belgique et avant l'indépendance. À cette époque, les milieux proches de la cour recherchaient des appuis internationaux et bizarrement, les milieux les plus conservateurs ont trouvé l'appui de la Chine communiste à l'ONU. Donc, toute cette histoire est un prélude au génocide. Comme vous le savez sans doute aussi, il y a une superbe chronologie faite par Emmanuel Viret dans l'encyclopédie. Vous pouvez avoir là tous les détails. Eh bien, l'indépendance a été suivie d'un premier génocide qui est souvent oublié parce qu'on a tendance à vouloir qu'un génocide fasse un nombre extrêmement élevé de victimes. Un génocide se qualifie par la nature du processus moins que par le nombre de victimes. Et il y a eu génocide en 1962-63 avec des séquelles jusqu'en 1964. C'est à ce moment-là que sont partis du Rwanda les réfugiés qui y sont revenus en 1994. C'est donc un antécédent direct du génocide de 1994. Avec comme antécédent plus immédiat, dans les années qui ont précédé le génocide, l'histoire de la région et l'histoire internationale. Histoire de la région, le Burundi a connu un génocide en 1972. En 1989, il y a eu des troubles également avec un afflux de réfugiés dans le sud du Rwanda où sévissait une famine. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les premières évocations d'un nouveau génocide, en 1988 pour être tout à fait précise. Vous aviez en Ouganda une grande masse de réfugiés qui avait à sa tête déjà Paul Kagame, un ami personnel de Museveni, et les enjeux communs de ces deux pays se trouvaient au Congo, plus précisément au Kivu, où on compte actuellement, je pense que c'est 6 millions de morts sur la dernière décennie, sans qu'on parle de génocide. Contexte plus international encore, le passage à une idéologie libérale, la chute du mur de Berlin d'abord, passage ensuite à une idéologie libérale et à des actions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale imposant une conditionnalité, imposant une prise en charge des populations par elles-mêmes, ce qui veut dire qu'en 1989, au moment où sévissait une famine, on a imposé des frais sanitaires et des frais scolaires supplémentaires à une masse paysanne qui ne voyait plus aucun espoir d'améliorer la situation de ses enfants, se trouvait confronté à un problème foncier absolument dramatique et se voyait tout à coup pourvu d'un exutoire qu'elle avait déjà connu deux générations plus tôt, à savoir le multipartisme imposé de l'extérieur comme l'image même de la démocratie. Pour le Rwanda, le multipartisme, c'était le retour au premier génocide. Ça, c'est un background que l'on peut retracer à quelques années de distance et dont on ne peut pas parler avec autant de liberté à tout endroit. comment ensuite parler de l'instrumentalisation du génocide? Je pense que on peut en parler de différentes façons. Le Rwanda, au moment du génocide même, était l'enjeu de politiques internationales auxquelles le Congo et ses richesses naturelles n'étaient pas étrangers. La place des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de pas mal de multinationales dans la région a probablement été plus déterminante que la lutte pour l'anglophonie ou la francophonie dans la région. Et on peut en revenir brièvement alors à l'utilisation de l'ethnicité. À mon avis, les identités sont réduites à un aspect unidimensionnel pour construire un prétexte à génocide. À partir du moment où on n'est plus que ceci ou que cela, eh bien, on n'est plus rien, on n'est plus une personne, on peut être tué en étant qu'ancre là, quelle que soit son ethnie. Ces enjeux internationaux se poursuivent aujourd'hui. Ils se poursuivent non seulement malheureusement pour les populations locales au Kivu, ils se poursuivent également sur le plan international. Certains de mes collègues ont parlé du capital génocide sur lequel le gouvernement rwandais a pu construire la remontée spectaculaire, non pas du pays, mais de sa capitale. Les campagnes, c'est une autre histoire. Et on ne peut plus aujourd'hui au Rwanda évoquer même une appartenance ethnique. Si on le fait en public, on est accusé de promouvoir une idéologie génocidaire et les enfants qui entendent ces mots dans leur famille sont encouragés à dénoncer leurs propres parents. Il est extrêmement délicat de parler de cette situation au Rwanda. J'y suis retournée au mois de septembre dans une conférence portant sur les religions, car c'est la seule manière que l'on a encore de faire des sciences sociales au Rwanda, c'est à l'Institut de théologie. Et malgré qu'il s'agisse d'un prétexte tout à fait acceptable, on a parlé du passé, mais on n'a pas parlé ni du présent, ni d'une quelconque reconstruction qui était en fait le but explicite de la conférence. Pourquoi ? J'ai eu le malheur, et certainement pas dans les termes que j'emploie ici, d'évoquer certaines injustices avec des orientations particulières devant un journaliste. Je suis désolée qu'il s'agisse d'un journaliste, mais il me semblait tout à fait suspect. Et il m'a accusé immédiatement de négationnisme, à quoi j'ai répondu que ne connaissant pas l'usage local du terme, je préférais m'en abstenir. Instrumentalisation du génocide, il se produit aussi d'autres façons. À côté de l'extraordinaire mausolée du mémorial du génocide de Kigali, qui est un modèle de réserve et de présentation correcte, popularisée, mais d'une manière très digne de l'histoire, il y a d'autres mémoriaux dans le pays qui n'ont pas tout à fait ces caractéristiques. Et notamment dans l'ancienne zone turquoise, il y a un mémorial dont on peut accepter la présentation des ossuaires, etc., où la France est carrément accusée pour la manière dont elle a occupé le site, et des pancartes sur le sol indiquent que les soldats français ont joué là au football. Instrumentalisation du génocide, je pense que le génocide est extrêmement porteur sur le plan international, pour ce qui concerne non seulement l'apport des capitaux, comme le disent certains collègues à bon droit d'ailleurs, mais aussi pour éviter, et c'est là que j'en reviens à ce que je disais avant que ce soit mon tour de parole, pour éviter que la politique actuelle ne soit analysée. Le gouvernement actuel lutte contre un génocide qui est avant tout un instrument de mémoire sociale, un instrument qui peut être utilisé par différentes parties de différentes manières, chacun en fonction de ses intérêts. Alors, je vous encourage beaucoup à lire non seulement l'index chronologique d'Emmanuel Viret ou le texte de René Lemarchand qui fait l'état des connaissances sur le Rwanda, mais je vous invite surtout à lire les articles théoriques de l'encyclopédie. parce que dans chaque cas de génocide ou de violence de masse, vous trouvez le moyen d'affiner les théories qui sont présentées par les différents auteurs. Chaque auteur vous présente des éléments que vous pouvez utiliser pour l'analyse de phénomènes particuliers. Mais à son tour, chaque phénomène particulier vous permet d'enrichir ces théories en mettant les auteurs en perspective. C'est un exercice extrêmement intéressant.
Et vous avez un article de Daniel Delame qui s'appelle « Anthropologie et génocide ».
C'est vrai, et « Anthropologie du génocide ». Il est très court. Je pense que je devrais y ajouter beaucoup de choses, en retirer quelques-unes, et le retravailler énormément. Il y a quelques bonnes idées, je l'ai relu ce matin. Mais il y a aussi un autre article qui est passé tout à fait inaperçu et qui donne tout de même quelques indications de cette articulation des différents contextes. Je l'ai publié en 1997 dans l'annuaire des Grands Lacs, et ça s'appelle « Le Rwanda et le vaste monde, les liens du sang ». Parce que précisément, ces liens du sang, ce sont des liens internationaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On va discuter tout à l'heure, bien sûr, mais je passe tout de suite la parole à Christophe Jaffrelot.
Merci beaucoup. Avant de parler de l'Inde, car ce sera l'objet unique de ma présentation, un mot pour me réjouir de voir ce projet fructifier. Lorsque j'étais à la tête du CERI, nous avons fait ce que nous avons pu pour qu'il prenne son essor, et il y a un an pile, nous avons ouvert, comme on disait, hein, à ce moment-là. Et c'était un grand moment, à la fois de gravité et de joie. Maintenant, le plus dur, c'est de continuer, parce qu'un projet de cette ampleur, de cette ambition, il n'existe que dans la durée. Et la durée, c'est ce qu'il y a de plus difficile à tenir pour une équipe. Elle est toujours aussi soudée, toujours aussi dynamique, inventive. Et ça me rassure, ça veut dire qu'on avait raison d'y croire quand on a commencé. Alors, de l'Inde, ce que je vous dirais aujourd'hui est en parfait accord avec ce que Daniel vient de vous dire du Rwanda, au sens où, en un quart d'heure, on ne peut pas dire trop de choses, donc je me limiterai à une thèse renvoie à cette malléabilité des identités. Alors, je ne remonterai pas dans le temps colonial, mais le parallèle pourrait être étendu justement à l'époque coloniale, puisque c'est là que tout se cristallise et que l'on invente des identités qui vont ensuite s'entrechoquer. Non, ce que je voudrais dire surtout, c'est combien les émeutes entre hindous et musulmans, même si ce sont des violences de masse de moindre ampleur qu'un génocide, ça s'explique par des stratégies, par des stratagèmes même. Et du coup, ça doit nous amener à relativiser toutes les interprétations de type primordialiste, de type culturaliste. Ça a été néanmoins la première inclination des anthropologues et des politistes qui, en faisant l'histoire de l'Inde, se sont rendus compte qu'il y avait toujours eu des conflits entre hindous et musulmans, aussi loin que l'on remonte dans les sources que nous livrent les voyageurs qui, notamment à partir de Marco Polo, sillonnent l'Inde et rapportent des témoignages. Et alors, ils ne cessent de dire qu'effectivement, entre hindous et musulmans, il y a une forme d'incompatibilité culturelle. Dumont dira plus tard une hétérogénéité radicale. Il est l'un des héritiers de cette lecture assez culturaliste du conflit entre hindous et musulmans. Et on voulait pour preuve que ces deux religions étaient incompatibles, le fait que lorsqu'on en venait aux mains, c'était à chaque fois autour d'enjeux rituels. L'abattage d'une vache, animal sacré, s'il en est dans l'hindouisme, par un boucher musulman. Le passage en musique d'une procession hindoue devant une mosquée à l'heure de la prière, autant de rituels de provocation, autant de preuves que cette affaire est religieuse, autant de preuves que nous avions affaire à des hétérogénéités radicales, pour reprendre le mot de Dumont, que tout ça était inscrit en quelque sorte dans les cultures et qu'il n'y avait rien à faire, du coup. Sauf que, d'une part, il y avait des zones de synthèse culturelle immenses, que je n'ai pas le temps de décrire ici, mais ce serait très intéressant de le faire, parce qu'au niveau religieux, d'abord, combien d'hindous rendent un culte à un pir musulman, combien de musulmans rendent un culte à un gourou hindou. Bon, mais aussi au niveau artistique, la peinture, la musique, les arts de la table, autant de zones de synthèse qui viennent contredire l'idée de cette hétérogénéité radicale. Mais plus encore, pour le politiste, il y a une difficulté à admettre que tout ça est ancré dans les cultures, parce que si c'était à ce point ancré dans les cultures, bah, ça ne devrait pas avoir beaucoup varié avec le temps. Et c'est la grande aporie de l'approche structuraliste qu'applique Dumont, en un sens, c'est que les choses ont bougé avec le temps, ont changé avec le temps, et que les émeutes ont connu des cycles. Alors avec des pics, la partition de 47, voilà un massacre de masse, est un pic, dont d'ailleurs Claude Markovitz se rend compte dans l'encyclopédie, et fort bien, remarquablement bien. Mais au-delà de ces pics, depuis l'indépendance, on a vu une tendance à l'aggravation. Pourquoi cette aggravation? Serait-ce parce qu'on devient de plus en plus religieux? Ce serait contredit, cette interprétation, par tout simplement la pratique, l'évolution de la pratique religieuse qui est plutôt en déclin. Non, les explications, elles sont à chercher ailleurs. Et deux écoles que je vais vous présenter rapidement donnent des lectures, je dirais, plus subtiles que ce que le primordialisme nous offre. Une interprétation socio-économique qui a, elle aussi, ses limites. Et c'est pourquoi je préférerais la dernière, la suivante, qui est beaucoup plus énoncée en termes de politique. Et plus ça va, plus je considère que le politique explique le politique mieux que tout autre. Et donc, je me retrouve dans cette interprétation. L'interprétation économique, d'abord, elle nous permet de faire un peu d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a eu beaucoup plus d'émeutes dans les années 60 que dans les années 50 en Inde? Eh bien parce que les années 50 ont été celles de l'anéantissement pour les musulmans. Les musulmans indiens sont encore 10% de la société en 51 lors du premier recensement de l'Inde indépendante. Ça veut dire que la moitié est partie au Pakistan, mais l'autre moitié est restée. Simplement, la moitié qui est partie est une moitié essentielle. Ceux qui sont partis sont ceux qui pouvaient partir, les élites, y compris les élites agraires qui ont préféré quitter leurs terres plutôt que de rester. Et privée d'élite, la masse, eh bien, elle est constituée de paysans, souvent très pauvres, et d'artisans. Il y avait beaucoup d'artisans qui vivaient des cours princières jusqu'en 47 et qui se retrouvent privés de patrons, qui se trouvent dans une situation de paupérisation. Il y a un véritable déclin de la communauté musulmane qui rebondit à partir des années 60. Ils se sont refaits, entre guillemets. Ils se sont refaits, et alors encore plus à partir des 70, parce que les booms pétroliers qui enrichissent les monarchies du Golfe donnent de nouveaux clients. Ce ne sont plus les Maharajs, enfin les Nawabs d'avant 47, ce sont les familles royales de Koweït, Abu Dhabi, Dubaï, qui viennent acheter en Inde aux musulmans, grands artisans, notamment du cuivre, des nouvelles denrées, en quelque sorte, de nouveaux biens de consommation. Et on voit du coup apparaître une petite classe d'entrepreneurs musulmans qui va être du coup jalousée par les concurrents hindous, et notamment dans des villes où les musulmans sont assez importants au plan économique, eh bien les émeutes vont se multiplier. Lorsqu'on regarde les villes d'émeutes dans les années 70, on est frappé par la corrélation entre la fréquence des violences et la relative prospérité que recouvrent ces artisans, entrepreneurs, musulmans. Juste trois exemples rapidement. Moradabad, une ville où la vaisselle au fil de cuivre est très répandue et s'exporte très bien dans les pays du Golfe, c'est la ville où il y a eu le plus d'émeutes dans toutes ces années 70. Bénarès, qu'on pense toujours comme une ville hindoue, est une ville musulmane, ô combien, parce que les tisserands sont musulmans. Et les tisserands mécaniques, hein, enfin, les métiers sont mécaniques, c'est quelque chose qui s'exporte là aussi beaucoup, notamment tout ce qui est soierie vers le Golfe. Et Bénarès est une des trois villes où il y a le plus d'émeutes dans les années 80. La dernière, c'est Aligarh. Aligarh, une ville très importante, c'est un petit peu El Azhar, hein, version sud-asiatique, une université très importante pour les musulmans et aussi un artisanat très important, en l'occurrence celui du cadenas, qui permet aux musulmans de retrouver un peu de prospérité. Donc une corrélation troublante entre des dynamiques socio-économiques et la fréquence des émeutes. Il est clair que des marchands hindous ont su provoquer les émeutes qui permettaient de se débarrasser de concurrents, voire de récupérer leurs outils de production, en tout cas de l'anéantir. On est frappé à ce moment-là par le fait que les émeutes visent moins les vies que les biens, ce qui changera. C'est en ça qu'on voit que ça n'est pas inscrit dans une culture. Les objectifs, les cibles évoluent en fonction des moments. À ce moment-là, c'est l'outil de production musulman qui est visé. Plus tard, ce sera autre chose. Il y a une variante à cette explication socio-économique, je dirais une variante ouvrière. On voit aussi une concurrence non plus entre entrepreneurs hindous et musulmans, mais entre ouvriers, entre classes ouvrières hindous et musulmanes. Dans les années 60-70, on est dans le même cadre temporel, le textile, qui est l'industrie phare de l'Inde à ce moment-là, connaît une crise de reconversion dramatique. C'en est fini du coton, c'est le début de la fin pour le coton, et on passe au synthétique. Vous avez quantité de cotton mills qui, du coup, dégraissent, pour reprendre un vocabulaire contemporain. Et il se trouve que les ouvriers musulmans, étant issus du milieu artisanal, sont plus qualifiés, donc sont moins victimes de ces dégraissages que les ouvriers hindous. Et que, du coup, la classe ouvrière hindoue se venge, entre guillemets, et qu'on a des émeutes étonnantes dans des villes ouvrières, Ahmedabad, au Gujarat, par exemple. Vous avez une émeute incroyable entre ouvriers dans les années 60-70. Donc, on est dans une logique, là, qui est, vous l'avez compris, économique et même socio-économique. Ce que cette interprétation-là n'explique pas, c'est évidemment pourquoi, une fois qu'on a cassé les reins à la petite classe d'entrepreneurs musulmans qui sortent à la tête de l'eau, ça continue. Et même ça s'aggrave. Logiquement, ça devrait s'arrêter. Et c'est là que l'interprétation économique ne suffit plus et qu'il faut appliquer, adopter une interprétation politique qui fonctionne à l'ethnicité et à l'ethno-religieux. Il y a un mouvement nationaliste hindou très ancien en Inde, mais qui a longtemps été groupusculaire, hein. On peut dire que de sa création en 1925 aux années 70, c'est une fine pellicule, marginale en tout cas, dans la vie politique indienne. Et puis, dans les années 80, dans un contexte qui est marqué par toute une série d'éléments que je vous livre en vrac, la révolution iranienne, qui quand même suscite quelques inquiétudes dans un périmètre qui va jusqu'à l'Inde. Les conversions d'intouchables hindous à l'islam, une façon de s'en sortir, pense-t-on, et ça fait très peur aux hindous que de voir une hémorragie, en quelque sorte, saigner leur poids démographique. De même, la façon dont le parti du Congrès, qui est au pouvoir depuis 1947, cherche à conserver un vote musulman en faisant des concessions à cette communauté qui déplaise fortement à la majorité hindoue. Tout ça crée un contexte qui permet aux nationalistes hindous de développer des campagnes d'agitation, de mobilisation. La plus fameuse d'entre elles, évidemment, s'articule autour d'un site, un temple. On retrouve le religieux, on retrouve les rites de provocation. Dans une ville du nord de l'Inde, Ayodhya, les nationalistes hindous revendiquent un site qui a été, disent-ils, remplacé par une mosquée. Il y avait un temple à l'origine, même c'était le site de naissance du dieu Ram, un des dieux les plus populaires de l'hindouisme. Que les empereurs moghols, que le premier empereur moghol, Babur, en 1528, aurait rasé pour y édifier une mosquée à la place. Dans les années 80, les nationalistes hindous revendiquent la restitution de ce site aux hindous, et évidemment c'est très vendeur, entre guillemets, on peut multiplier les manifestations pour obtenir réparation, entre guillemets. Et on peut utiliser ces mobilisations pour provoquer des violences. Et c'est l'objectif explicite de ces grandes campagnes qui visent à polariser l'électorat par la violence. Polariser la société, suivant une ligne de partage ethno-religieuse, par la violence. Et donc, on retrouve les rites de provocation, on retrouve du religieux, bien sûr, on retrouve des symboles, on retrouve du sacré. On va se promener en procession avec des briques, les briques qui doivent servir à construire le temple. Et on le fait en pleine campagne électorale, en 89, et on le fait en passant devant les mosquées à l'heure de la prière, pour être sûr de susciter une réaction, ça ne manque pas. Les dévots sortent de la mosquée, commencent à acheter des pierres sur la procession, qui étaient armées jusqu'aux dents, bombes à l'acide, armes blanches, tout est bon, et on a des émeutes qui, en 89, véritablement font un espèce de pic quand on regarde le graphique des violences intercommunautaires. On a les plus grosses violences depuis la partition. Et là, on ne vise plus les biens de production, on vise les hommes. On cherche à tuer. Pour le bénéfice, je dirais, d'une stratégie, faire en sorte que le bain de sang cristallise des identités qui vont ensuite se retrouver dans l'acte électoral. Parce que quand il s'agira de voter, et ce sera quelques semaines seulement après ces violences, eh bien forcément les hindous voteront plus hindous, ils voteront plus nationalistes hindous. Et comme ils sont 80%, ça se retrouve évidemment dans les résultats électoraux. Et le parti nationaliste hindou, après cette vague d'émeutes qui fait plus de 2000 morts en quelques semaines, passe de 2 sièges à 88 sièges. Ce qui est absolument spectaculaire et évidemment ce qui était l'objectif. Ce que je voudrais ajouter, j'aurais fini, c'est que dans les années 80, on a donc utilisé du rituel religieux pour mobiliser. Cette affaire d'Ayodhya, cette affaire de Ram, et la forme que les manifestations ont prise était précisément religieuse. On était dans de la procession. La procession, c'est évidemment quelque chose de religieux. Depuis, ce qui est, je dirais, le plus notable, c'est qu'on n'a même plus pris la peine d'utiliser un habillage religieux, de recourir à du rituel pour mobiliser et provoquer l'action violente contre l'autre. La preuve, en est donnée par les émeutes du Gujarat de 2002, où cette fois c'est 2000 musulmans qui sont massacrés en quelques jours dans les villes, mais aussi dans les villages. Là, on n'a pas pris la peine d'avoir à mobiliser par du religieux. On a été en quelque sorte se venger contre les musulmans, alors qu'ils auraient été responsables d'une attaque qu'on n'a toujours pas démontrée. La véracité de l'attaque initiale n'est pas prouvée. Dans un train qui ramène des militants d'Ayodhya où ils étaient partis pour construire ce fameux temple, eh bien, on jette une torche qui enflamme le wagon et 54 personnes meurent. Aussitôt, on se rend compte que tout était prêt pour l'assaut final, entre guillemets. On voit des militants armés jusqu'aux dents envahir les quartiers musulmans, tuer, violer, s'acharner sur les femmes et les enfants, avec une volonté petit 1 d'organisation systématique et petit 2 de cibler la capacité reproductrice et, je dirais même, la capacité vitale, enfin la capacité à se revitaliser de la communauté musulmane. On est dans une logique de purification ethnique. L'idée est de se débarrasser de ces musulmans. Et lorsqu'ils ne meurent pas, c'est qu'ils partent, et s'ils partent, c'est à la périphérie, le plus loin possible. Aujourd'hui encore, à Ahmedabad, il y a ce qu'on appelle des relief colonies, qui sont des camps qui se retrouvent dans une espèce de no man's land, à la périphérie des villes. On les a fait disparaître de l'écran radar, enfin, en tout cas de l'espace public. Et ça, on l'a fait sans avoir à recourir à du religieux. On n'a même pas eu, hein, c'est ça le point à mes yeux important, on n'a même pas eu besoin de mobiliser sur un enjeu religieux. Il fallait casser du musulman, entre guillemets, en tant que tel. Et donc on est passé d'une logique ethno-religieuse à une logique purement ethnique, pour le coup. Hein. Et là, évidemment, c'est un pas de plus dans la logique de purification ethnique, ce qui amène à conclure qu'on est bien dans, je dirais, un phénomène malléable de reconstruction identitaire permanente. Il n'y a pas de données religieux qui soient, je dirais, inscrits dans la culture et dans l'histoire. Tout ça peut s'en émanciper. Et donc, il faut se méfier de tous ces résidus de culturalisme qui peuvent nous entourer. Merci.
Merci beaucoup pour ces deux magnifiques exposés qui sont l'illustration parfaite de ce avec quoi vous finissiez votre exposé, Daniel, hein, sur le fait que je suppose que la plupart d'entre nous sommes très étrangers au Rwanda, très étrangers à l'Inde, mais nous avons, je crois, dans ces quelques minutes, appris énormément sur les sujets qui nous intéressent. J'ai retenu cette formule chez vous, Daniel, construire un prétexte à génocide, et chez vous, Christophe, cette malléabilité des identités et cette utilisation d'un rituel pour mobiliser. Alors, je sais que vous devez partir assez vite, et je le regrette beaucoup, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de questions. Donc, ce que je voudrais faire dans un premier temps, avant que Christophe ne doive partir, j'aimerais bien vous donner la parole, parce que s'il y en a parmi vous qui veulent lui poser spécifiquement des questions...
C'est gentil.
Oui. Pour les...
C'est bien que c'était clair.
Ah ben alors,
oui, c'était extrêmement clair. Extrêmement clair, ouais. Extrêmement passionnant.
Non. Je voudrais peut-être souligner un petit élément. C'est que l'utilisation de rituels à des fins de mobilisation, je pense qu'à des degrés divers et de différentes manières, elle est toujours présente. Pour déclencher un génocide, il faut créer des rituels mobilisateurs. La création d'identité est déjà, d'une certaine manière, un rituel, mais ensuite, il faut donner corps à cette identité qu'on est occupé à fabriquer d'une manière différente de ce qu'elle est dans la vie courante. Et donc, on recourt à des rituels de convivialité, partager des boissons ensemble, ce genre de choses banales prend tout à coup une autre connotation. Des rituels religieux peuvent également n'inclure désormais qu'une fraction de la population, voire certaines fractions de la population passent à certaines églises revivalistes, etc., etc. Et je pense que ces aspects sont très forts dans la mobilisation populaire.
Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, j'ai été peut-être un peu rapide sur ce point, c'est que dans le contraste qui existe entre les années 80 et les années 2000, c'est du rituel religieux visant à mobiliser des non-militants dont on n'a plus besoin. Parce qu'en fait, dans les années 80, il faut réussir à mobiliser et à donner d'ailleurs une apparence de spontanéité, du coup, à la violence. Hein. On a une bonne raison de sortir dans la rue et puis de se battre. De cela, on n'a plus besoin 10 ans plus tard, parce qu'on a déjà, en quelque sorte, constitué le noyau de militants qui est anti-musulman avant d'être là pour défendre des symboles hindous. Et c'est ça la transition. Et alors, évidemment, ces gens-là ont des rituels. Ô combien. Ils sont, je dirais, comme tous ces mouvements, d'ailleurs, extrémistes. Hein, partout où il y a ce genre de psychologie, de mentalité. On est très ritualisé, on est même fétichiste à la limite. Mais on n'a plus besoin de faire comme si eh bien, le commun des mortels avait à se mobiliser lui aussi parce qu'on a la force de frappe nécessaire.
Ça pose un problème. Excuse-moi Jacques, je te coupe la parole, mais j'allais te citer. Ça pose le problème de ce que tu as appelé depuis longtemps et qu'on a tous repris, je crois, le problème du passage à l'acte. Parce que vous avez beaucoup de « on » de vos exposés, oui, et on comprend bien qu'il y a une nébuleuse de gens, etc. Les entrepreneurs, les penseurs, ceux qui construisent, etc. Puis à un moment, il y a des gens qui tuent. Et ce passage à l'acte, dans vos deux exposés, et par manque de temps, bien sûr, hein, on l'a pas complètement saisi.
Non, Christophe...
C'est un sujet qui finit par être, je trouve, bien traité en Inde, parce que longtemps, on a eu une boîte noire. Hein, on a vu une boîte noire, on avait un avant, un après, on comptait les morts, et l'entre-deux était complètement occulté. On est maintenant... Nous sommes maintenant en mesure de d'identifier les responsables du passage à l'acte, au sens où on a suffisamment arrêté de criminels. On a pu les faire parler de manière telle qu'ils nous ont décrit leur... Il y a une catégorie numéro un, c'est celle effectivement d'idéologues endoctrinés qui y croient, qui font ça par conviction. Et qui sont évidemment les noyaux durs, qui sont les meneurs, qui sont ceux qui amènent les armes, en l'occurrence les tridents de Shiva, les bonbonnes de gaz, parce que tout ça est acheminé, il y a une logistique derrière, hein, et on a les listes des musulmans issus des listes électorales avec leur adresse, on a le téléphone portable, il y a une tour de contrôle. Une émeute comme celle d'Ahmedabad, c'est quelque chose qui est planifié, qui est organisé et qui, en plus de ça, a le soutien de l'État. Donc, c'est la tour de contrôle, si je veux dire, la salle de contrôle de la police qui sert de QG. Bon, pas faire mieux. Donc, là, on a le noyau des idéologues, enfin, des entrepreneurs, on peut dire. Et puis, passer à l'acte, ça veut dire quand même avoir une capacité à tuer qui n'est pas donnée à tout le monde. Et on peut être un très bon idéologue et un très mauvais criminel. Et c'est un cas assez fréquent en vérité.
Enfin, on est un criminel, mais pas du même genre.
Voilà. Et c'est un cas assez fréquent en vérité, parce que ceux qui tiennent la plume sont excellents rhéteurs, mais bon, très mauvais assassins. Et là.
Parfois, ils mettent la main à la pâte.
Et c'est le cas. En l'occurrence, il y a une zone de chevauchement. Il y en a qui sont passés à l'acte, qui ont pris les armes, qui ont montré l'exemple, qui ont même fait des gestes particulièrement horribles que je ne décrirai pas ici pour montrer jusqu'où on pouvait aller et où on devait aller. Mais la masse, les fantassins, je dirais la piétaille, elle vient d'ailleurs. Et on sait maintenant que c'est finalement surtout les groupes criminels, les mafias, que l'on recrute, à la limite comme des tueurs à gages. Hein. Il y aura une émeute, soyez présents à telle heure, tel jour, et vous aurez votre dû. Vous pourrez piller et on vous payera. Là, il y a tout un milieu criminel qui est en Inde très répandu. Les mafias sont très, maintenant, je dirais, structurées. Il y a des gangs partout. Et ça, c'est un premier groupe. Et il y a un deuxième groupe qui est fait très souvent des intouchables. En tout cas, disons, de la plèbe, hein, une forme de lumpen prolétariat, qui est très peu éduqué, que l'on va alors là griser. Hein, voilà un rituel. La cuite que l'on prend ensemble avant... d'aller mettre le feu avant d'aller piller, violer. Et ça, ce sont des mouvements qui viennent des bidonvilles. Ce sont des gens qui viennent des bidonvilles. Il y a des recruteurs, des agents recruteurs qui sillonnent les bidonvilles et qui vont aller offrir une rémunération en échange d'un coup de poing. Et du coup, quand on regarde la liste des condamnés, enfin des personnes incriminées, arrêtées, c'est très hétéroclite. Et notamment, c'est une espèce de coupe transversale à la société en termes socio-économiques. Il y a des gens de haute caste, il y a des gens de basse caste, il y a des intouchables, beaucoup d'intouchables. Il y a des gens qui sont de la classe moyenne, il y a des gens qui sont du prolétariat. Et ça remet en cause la notion de détermination socio-économique, enfin, sociale, de ce point de vue-là. Parce que ça brouille les pistes.
Je crois que les pistes sont de toute façon brouillées. Parce que je pense qu'il y a de multiples causes.
Il y a le déclenchement d'un acte collectif, mais il y a aussi une multiplicité d'actes individuels où interviennent des motifs personnels. Alors, si on prend, oui, bien sûr, il y a les idéologues, on les connaît très bien pour ce qui concerne le Rwanda. Il y a les organisateurs, le fameux Réseau Zéro et la petite maison, on traduit toujours à Kazou par petite maison, mais en réalité, le terme a une autre traduction en Kinyarwanda, ça veut dire la maison par excellence. Et à la fois, elle est restreinte, puisque ce sont les gens les plus importants au niveau du pouvoir. Et c'est l'organigramme, pas toujours officiel, qui les reprend. Et ça, ce sont les organisateurs principaux. Il y a évidemment les ramifications. Et il y a surtout le système de gouvernance, gouvernement, qui rend ces ramifications possibles. Et ce sont souvent des réseaux où se mêlent à la fois des relations formelles et informelles. Et c'était certainement le cas au Rwanda, où on avait un système de clientèle qui était hérité du passé et qui a servi, qui s'est reproduit parmi les bourgmestres, etc., de façon analogue à ce qu'on avait connu avant et pendant la colonisation. Et dans certaines régions du pays, ce sont les bourgmestres qui, avec quelques années de recul, ont planifié, ont fait du repérage des Tutsis, ont planifié. Il y a eu des autorités religieuses qui ont agi de la même façon. Et alors, ça, c'est, bon, c'est, disons que c'est le deuxième niveau. Alors, il y a eu au Rwanda un terrain très fertile dans les personnes déplacées à la suite de l'attaque du FPR en octobre 1990 dans le nord du pays, avec une avancée, finalement, je pense que c'était jusqu'à 70 km de la capitale, ils étaient relativement proches. Il y avait d'énormes camps de personnes déplacées à proximité de Kigali. C'était évidemment des berceaux de recrutement de milices particulièrement favorables. Il y avait alors, et tout cela, disons, ferait partie de cette armature organisationnelle relativement centralisée, mais à côté de ça, il y avait toute une masse de jeunes hommes sans terre qui étaient facilement mobilisables dans les campagnes. Il y avait l'aggravation de la situation financière qui faisait que les emplois déjà rares devenaient de plus en plus convoités, créaient des jalousies entre voisins, entre collègues de travail, etc. Et quand on analyse les processus individuels du génocide au Rwanda, on s'aperçoit que toutes ces rivalités ont joué comme elles ont joué également en Europe. De nouveau, n'exotisons pas l'Afrique à outrance. Il y a des ouvrages qui sont extrêmement intéressants. La thèse d'Emmanuel Viret sera certainement passionnante sur l'utilisation des liens faibles, comme le disait le sociologue Granovetter, l'importance des liens faibles pour la diffusion des rumeurs et pour les mobilisations populaires. Il y a aussi une thèse qui vient de sortir qui s'appelle Killing Neighbors par Liane Fuji, d'excellents travaux qui montrent justement ces meurtres génocidaires, mais de proximité, pourrait-on dire. Il y a des actes de résistance qu'il ne faut pas oublier, l'une ou l'autre commune où des bourgmestres de façon héroïque ont résisté au génocide, quelquefois avec succès, quelquefois pas, et c'était une question de quelques heures de différence entre l'arrivée des renforts. Et alors, il y a aussi toute cette question de la justice après génocide qu'on n'a pas encore évoqué. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant. Vous connaissez tous certainement, pour en avoir entendu parler, ces tribunaux Gacaca. Ils ont donné lieu à des actes que l'on doit situer dans le contexte du génocide, puisqu'il s'agit d'actes de suppression de témoins, d'actes de vengeance personnelle ou de règlement de comptes actuels en utilisant le génocide. Il n'y a pas que les gouvernements qui instrumentalisent. Il y a, évidemment, on ne peut pas tolérer l'impunité, mais on ne peut pas tolérer non plus, dans une perspective de reconstruction, qu'il y ait deux poids, deux mesures, et que les crimes de guerre du FPR ne puissent pas être même évoqués. Je pense qu'il n'y a de place pour une reconstruction sociale ou nationale que dans la vérité. C'est sûrement de l'idéalisme naïf de ma part, mais je ne vois pas comment un pays peut se reconstruire si les gens qui sont au pouvoir ont tout le pouvoir, y compris celui d'occulter leur propre vérité.
Vous allez parvenir tout de suite au Rwanda, Daniela.
Je pense que j'y suis allée pour la dernière fois.
Il y a une question. Tout à fait au fond là-bas. Merci.
Ces réactions violentes à l'égard des musulmans sont-elles le fait des partis politiques majoritaires en Inde ou s'agit-il d'un parti nationaliste hindouiste seulement? Est-ce que, d'après vous, il y a une tendance anti-musulmane dans la société indienne?
Alors, il y a trois questions en une. Et effectivement, ça fait système. Le parti nationaliste hindou est évidemment le creuset de tout cela, même s'il avance masqué. Ce n'est jamais lui qui est en première ligne. Il a ses propres filiales qui le font pour lui, le travail de polarisation de l'électorat. Mais c'est vrai que le calendrier des émeutes est tellement calé sur celui des élections qu'on voit bien en quoi il peut être derrière. Majorité, vous avez prononcé le mot, il ne l'a jamais été, mais il a été au pouvoir. Et il a gouverné entre 1998 et 2004, notamment porté par cette vague. Et c'est la troisième question. Est-ce qu'il y a une vague, effectivement, anti-musulmane en Inde? Moi, ce que je constate, ça fait pas aussi longtemps que je travaille sur le terrain que Daniel, mais ça fait 25 ans que je vais en Inde quand même à un rythme assez fréquent, disons. Et je pense que le curseur s'est effectivement déplacé. Et qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis des musulmans qui, sans prendre une tournure violente, hein, pas parce qu'il y a eu tant d'émeutes que tous les hindous sont prêts à en découdre physiquement, bien sûr que non, mais le curseur s'est déplacé au sens où, par exemple, vous avez de la discrimination sur le marché du travail que l'on ne connaissait pas auparavant. Que vous faites des enquêtes, comme on dit, de testing. Hein, vous envoyez 4000 CV avec un nom, un patronyme brahman, un patronyme musulman, un patronyme intouchable. Et tout le monde sait qui est qui en Inde. Hein, il suffit de trouver le bon nom. Eh bien, ceux qui sont invités à l'interview d'embauche, ce seront d'abord des brahmanes, ensuite des intouchables et finalement des musulmans. Ce qui est complètement nouveau. Et vous avez le même phénomène au niveau du marché immobilier. Auparavant, on réussissait à vivre dans un territoire mixte, en quelque sorte, hein, avec des voisins, on retrouve le problème du voisinage, d'autres confessions. Aujourd'hui, dans la classe moyenne, qui continue quand même d'exister musulmane, on ne peut plus, si facilement que ça, habiter dans un immeuble mixte à Bombay, à Pune. Alors, il y a des cas d'ailleurs extraordinaires. Une grande actrice comme Shabana Azmi, qui est une des grandes actrices de l'Inde, a récemment publié un article disant « Je n'arrive pas à trouver à me loger à Bombay, ville cosmopolite par excellence. » Et c'est un fait que, moi je l'ai constaté aussi dans mes terrains récemment à Ahmedabad, où j'étais le mois dernier, il y a des ghettos musulmans qui se constituent. Où quelle que soit la classe sociale à laquelle vous appartenez, vous vous retrouvez parce que, d'abord, vous êtes en sécurité en cas d'émeute, et deuxièmement, par défaut, vous allez là, faute de pouvoir aller ailleurs. Et quand on voit des ghettos comme celui d'Ahmedabad, 300 000 personnes, regardez comme Little Pakistan par le reste des habitants d'Ahmedabad, eh bien, vous retrouvez quand même là une preuve, à mon avis, d'une sorte d'évolution de la société en général. C'est le racisme ordinaire. Hein, on connaît ça par cœur. Il y a une évolution qui nous éloigne de ce qu'était l'Inde d'avant. Hein. Et là, les élections qui viennent, hélas, vérifient cela, au sens où les partis politiques ne donnent plus leur investiture aux musulmans. C'est peine perdue. Ils ne seront pas élus. Et donc, vous avez un nombre de députés musulmans qui ne cessent de diminuer. Le seul espoir qui leur reste, c'est éventuellement de faire alliance avec les partis de basse caste, parce qu'en termes socio-économiques, ils sont assez proches d'eux maintenant. Mais il faudra voir les élections du mois prochain, nous montrerons si c'est une bonne carte. C'est la carte qu'il joue, en tout cas.
Mm-hmm.
Il y a une question ici. Oh, pardon. Allez-y.
Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si on pouvait mettre en parallèle avec le conflit avec le Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan. Est-ce qu'il y avait un rapport entre les émeutes
Il y a un rapport, mais si vous voulez, qui est purement abstrait et psychologique. C'est-à-dire que pour de nombreux hindous, cette minorité musulmane est une cinquième colonne du Pakistan. On n'en a toujours pas la preuve. Alors, on va finir par l'avoir, parce qu'à force de le dire, ils vont finir effectivement par amener la jeunesse musulmane à aller chercher au Pakistan les instruments de leur résistance. Et ce qu'on a vu d'ailleurs l'an dernier, c'était déjà un peu ça. Il y a maintenant des attentats islamistes visant des lieux saints hindous notamment, qui sont en fait organisés par des Indiens, des musulmans de l'Inde, armés par les groupes islamistes pakistanais. Alors, c'est terrible parce qu'en fait, on les a mis le dos au mur de telle sorte qu'ils ont fini par faire ce qu'on disait qu'ils faisaient depuis toujours, et maintenant on peut vraiment le dire.
C'est la prophétie autoréalisatrice.
Voilà, exactement. Et ça, c'est une spirale très dangereuse.
Merci. En fait, vous venez de répondre à ma question, parce que je voulais savoir comment vous pouviez articuler les explications socio-économiques et politiques à ces émeutes avec le contexte régional. Vous venez de le faire.
Il faut lire ces bouquins.
Alors, je vais vous quitter.
Ouais, il faut aller.
Je suis désolé de vous devoir.
Il nous doit une contribution, il va l'expliquer.
Alors, hein, ce sera le mot de la fin, si tu veux bien, Jacques. Voilà. Effectivement, ceci sera mis par écrit, alors j'espère en français et en anglais, car je dois une contribution.
Voilà, c'est tout ça, sur ces théories.
Depuis longtemps, Nathalie est d'une patience d'ange, toi aussi, Jacques, mais j'avais peu de loisirs jusqu'à présent. Là, il y a effectivement...
Donc vous abonnez au... Comment ça s'appelle Voilà,
et
vous
guettez.
Voilà, c'est ça. Et vous avez ça sur la page d'accueil et vous guettez la contribution de Christophe Jaffroli.
Sinon, on fait une manifestation sur sa boîte mail.
Une procession devant son bureau.
Je suis désolée de vous compter comme ça.
Combien il nous reste de temps, Valérie ?
Le temps des questions, je pense, et puis une conclusion.
Oui, je ferai une conclusion très très rapide parce que moi aussi, je peux difficilement partir après 7h moins le quart. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes.
Voilà, j'avais encore deux questions, je crois.
Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à Daniel Delame. Dans votre introduction, vous avez distingué deux types de débats sur le génocide rwandais. Un débat qui vous paraît fondé, que vous n'avez pas précisé, mais vous pouvez peut-être préciser. Vous avez opposé, par exemple, Vansina et le dernier travail, la dernière publication de Gérard Prunier. Et puis, ensuite, deuxième niveau, je crois que c'est ce que vous avez appelé des querelles d'école, et dans lesquelles vous avez dit que vous ne vouliez pas prendre parti. Et moi, il m'intéresserait que vous soyez un peu plus précis sur ces deux niveaux de débat et que, donc vous, pour que nous comprenions pourquoi dans un cas, le débat vous paraît légitime et dans un autre, non.
Alors, permettez-moi simplement de dire que la personne qui vient de parler, c'est Claire Andrieux, est membre éminent de notre comité de pilotage et publicité gratuite avec laquelle nous venons de publier un gros volume avec Sarah Gainsburger qui s'appelle « La résistance au génocide ». Je referme la parenthèse.
Non, je pense qu'on s'est peut-être mal compris. Je ne veux pas entrer dans des querelles d'école. Il m'est arrivé, et je ne veux pas non plus citer de nom, je sais qu'il y a des querelles personnelles entre scientifiques s'intéressant au Rwanda en France, et je ne veux pas entrer là-dedans. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors, par contre, par rapport à ce que je disais au sujet de Vansina et Prunier, j'ai voulu les mettre un peu comme scientifiques sur le même plan qu'Alison Desforges, dont j'ai tenu, pour des raisons personnelles, à évoquer la mémoire, parce que ce sont des auteurs qui ont eu à cœur de montrer un peu ce qui se passait dans les deux camps, tout comme Alison Desforges le faisait. C'est ça que j'ai voulu dire. Et pour ce qui est des querelles d'école, je ne veux pas entrer dedans pour une raison aussi très simple, c'est que je ne les connais pas. Je sais qu'en France, il faut marcher sur des œufs quand on parle du génocide des Tutsis au Rwanda. Je préfère tout simplement éviter les œufs et rester sur mon terrain.
Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est la réponse, en effet.
Bonsoir, je suis Philippe Charrier, j'appartiens à la BPI, je triche un petit peu, je prends du temps au public, mais c'était d'abord pour saluer le courage de votre entreprise. Ça m'a frappé quand on préparait cette séance. Et ensuite, je voulais vous demander, comme votre science ou l'objet de votre science est vraiment effrayant, je voulais savoir si est-ce qu'on a une science équivalente ou égale des phénomènes qui permettent de sortir en fait de ces spirales infernales.
La question s'adresse à tout le monde. Hein.
Oui, mais particulièrement à toi, Jacques. Mmh.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a comment dire ? C'est vrai que quand on travaille sur ces questions, ça vous prend non seulement à la tête, mais au cœur. Et je crois que ce n'est pas simplement le cas du chercheur. Les journalistes, des collègues qui ont été au Rwanda, par exemple, récemment sont marqués pour la vie à travers ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Donc il y a certainement un grand risque à être absolument happé par la monstruosité de ces événements et en même temps à être happé par ces querelles passionnelles, en fin de compte, dont parlait Daniel, entre chers collègues, qui ne se parlent plus, parce que la passion est là, parce qu'on a choisi son camp. Alors pour ce qui me concerne, j'ai deux remèdes, entre guillemets. Premièrement, c'est certes de prendre parti, mais en même temps de rester distancié, peut-être plus de rester distancié sur ce sujet, avec la volonté, j'en reviens à l'encyclopédie, d'avoir une écriture inclusive plutôt qu'exclusive, c'est-à-dire que les sujets que nous traitons sont sujets à controverse. On en a parlé, mais nous voulons faire état des controverses. Quand vous allez dans les études de cas sur mémoire, eh ben on va vous donner les différentes approches de la mémoire ou des mémoires sur tel ou tel cas, et en même temps, en ce qui concerne ce qu'on appelle les interprétations des faits. Donc, il y a la volonté de donner au lecteur différentes visions des choses. Donc ça, c'est la réponse par rapport à l'encyclopédie. Par rapport à ma propre hygiène personnelle, et ça, c'est une question de remède, c'est de travailler pas seulement sur ça. Ce sera important. Et donc, par exemple, certains le savent, je travaille sur la notion de résistance et de résistance civile. Le travail que nous avons fait avec Claire fait partie de cela. Alors, certes, on est proche du sujet, mais en même temps, on a quand même une autre vision de l'humanité, d'une humanité qui sauve, qui protège, qui aide. Il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire qu'au moment où il y a la fureur de la violence, le sang, il y a quand même d'autres personnes qui, dans le secret des maisons, cherche à protéger ou à faire fuir vers la frontière où les personnes pourront être épargnées. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment une hygiène personnelle. Mais c'est ma réponse propre.
Vous voulez donner votre réponse ?
Eh bien, oui, je peux donner. J'ai des remèdes au coup par coup, je dirais. Il y a une hygiène de long terme, à savoir effectivement de travailler aussi sur d'autres sujets. Je travaille sur les cultures populaires urbaines dans d'autres régions que le Rwanda, parce que ce sont des choses qui m'ont été proposées, c'est très simple. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu continuer à travailler sur le Rwanda en faisant du terrain, parce que moi je suis une personne de terrain. Les regrets quant au pays sont beaucoup plus profonds que les regrets que je peux avoir par rapport à ma carrière. Et je dirais que, oui, il y a la conscience d'une autre humanité. Il y a aussi la conscience que la vie continue dans ce pays. Et que même si on ne peut pas faire quelque chose, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux faire un petit quelque chose, simplement comme scientifique, à travers l'information, en essayant de faire mon travail correctement. Déjà à l'époque, il y a 20 ans maintenant, comme anthropologue, j'estimais que la meilleure manière d'aider les paysans, c'était de simplement décrire leur vie, parce que l'observation est souvent très proche de la subversion dans certains milieux. Et ensuite, je dirais comme personne, c'est tout simplement que j'envoie de l'argent aux gens grâce auxquels j'ai fait ma thèse. Et c'est très thérapeutique. Et je ne me pose pas trop de questions sur ce qui s'est passé sur la colline. Je sais qui a été tué. C'est une région où il y avait beaucoup de Tutsis, il n'en reste pas. J'ai pris soin de savoir qui avait tué. J'ai réussi à le faire par l'association Ibuka. Voilà. Et donc je suis retournée voir mes amis en sachant que probablement je n'avais aucun motif de ne pas rester leur ami. Et je dirais que rétablir ces relations sur le plan personnel telles qu'elles ont existé il y a 20 ans, c'est aussi très thérapeutique.
Et toi, Annette, tu veux dire un mot là ?
Je veux bien dire un mot, mais je voudrais d'abord peut-être que Françoise, qui est là et qui n'a pas parlé cet après-midi, peut-être dise un mot parce qu'elle travaille au cœur du plus dur.
Oui.
Françoise Cironi, psychologue, qui fait partie aussi du comité de pilotage.
Oui, alors ce que je crois que je reprendrai par rapport pour la suite des questions à ce que disait Jacques, qui disait que nous avons un qu'est-ce qui nous anime. Il y a la passion de la recherche, mais il y a aussi ce que j'ai beaucoup retenu dans ce que tu as dit, c'est le sentiment de la responsabilité de diffuser, de faire connaître, de faire savoir. Et c'est vrai qu'en tant que psychothérapeute qui faisant de la recherche sur les victimes de criminalité politique et psychothérapeute, donc à la fois aussi des auteurs, mais également des victimes, je crois que c'est par le travail de recherche, c'est ce qui me permet effectivement d'avoir une distance, et par la transmission également. Et la manière de traiter une victime en recherchant avec elle, en co-construisant du sens autour de l'intentionnalité du bourreau, par exemple, parce que la question, c'est que si elle va mal, ce n'est pas de son fait, ce n'est pas lié à des problématiques intrapsychiques remontant à la petite enfance, mais bel et bien aussi à cause de ce que l'on a fait. Donc tout ce travail aussi autour des traumatismes intentionnels, de l'intentionnalité dans le traumatisme, eh bien, je crois que l'ensemble de la recherche est dédié à ce travail de lutte contre le déni également. Parce que pour les auteurs, je crois que c'est également un besoin très important de travailler avec les auteurs pour éviter l'instrumentalisation de la vengeance, par exemple, dans un pays, pour déconstruire avec eux de quelle manière ils ont aussi été construits, fabriqués par le système, par tout ce qui a été dit, toutes vos interventions.
Je vais peut-être conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et ma conclusion sera aussi la réponse à votre question, monsieur. En fait, je l'avais peut-être anticipée en la préparant. Représenter, c'est d'abord narrer. Et j'ai pensé à cette phrase d'Isaac Dinesen, qui a d'abord été utilisée par Hannah Arendt, et puis ensuite par Paul Ricoeur, que tu citais tout à l'heure, Jacques, et ce n'est pas le hasard qu'on cite les mêmes personnes. Voilà cette phrase. « Les chagrins, quels qu'ils soient, deviennent supportables si on les met en récit ou si l'on en tire une histoire. » Et je voudrais m'interroger très, très rapidement. Peut-on parler des violences de masse en général, aujourd'hui, comme d'un immense chagrin que nous tous, ici, avec nos spécialités, essayerions de représenter. Je crois que notre imagination intellectuelle doit prendre le pouvoir pour tenter d'historiciser ce qui semble tellement inhistoricisable, l'intime de la souffrance, de la douleur, de la perte, de rester à la fois autant des intellectuels froids que nous pouvons l'être, mais savoir que nous sommes aussi des acteurs de tout cela et que nous avons des sens et des émotions. Nous nous adressons à des catégories humaines épouvantables, la violence, la cruauté, la souffrance,
le trauma de ceux qui ont été les perpétrateurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Nathalie, qu'on appelle quelquefois les bourreaux ou les assassins, de ceux qui ont été les victimes, de ceux qui ont été ce que Hilberg, dans sa première taxonomie, si je peux m'exprimer ainsi, de la Shoah, appelait les bystanders, ceux qui sont à côté, ceux que l'on a traduit très mal en français par témoins, parce qu'ils étaient tout, justement, sauf des témoins. Ils étaient cette catégorie grise qui avait quelquefois les mains dans le sang, quelquefois à côté, quelquefois ils n'avaient rien vu, quelquefois ils avaient participé. Et je pense en particulier pour notre réflexion sur ces violences de masse aux travaux si extraordinaires de Jan Gross sur la Pologne pendant et après la Shoah. Et cela nous amène au vrai témoin ou à la vraie victime, si ce vrai existe, et à l'idée dont il faut souvent se défaire, et pour nous en particulier qui travaillons sur ces questions, sur l'idée que la victime ou le témoin est quelqu'un de passif, n'est pas quelqu'un d'actif, n'a pas de prise sur son destin. Et je crois que dans tout ce qui a été dit cet après-midi, en particulier dans les deux dernières interventions, il était très net qu'on se défaisait, bien sûr, de cette posture, que le témoin est actif, que le témoin est un témoin, comme l'a appelé si joliment Avishai Margolit, un témoin moral et qui, à un certain moment, prend une posture. Et que cette posture, c'est à nous aussi, bien sûr, de la décrypter et de la faire rentrer dans notre réflexion sur les violences. Même chose, bien sûr, sur ceux qu'on appelle les victimes, catégorie extrêmement sophistiquée. Et il y a dans la salle et ailleurs, pas loin de nous, des gens qui travaillent avec beaucoup d'intelligence, soit en politiste, soit en psychologue, sur cette question de la victime. Donc, je crois que toutes ces expériences, qu'elles soient celles d'historiens, d'anthropologues, etc., etc., ont fait de nous, je crois, à la fois des intellectuels relativement froids, mais que elles ont fait de nous forcément, et c'est comme ça que je voudrais vous répondre, monsieur, des militants de l'intelligence de cette violence. Et quand je dis militant, c'est bien sûr au sens le plus fort du mot, hein, miles. On est des soldats de l'intelligence, et sans empathie, bien sûr, on ne peut pas être un soldat de l'intelligence. Et je conclurai avec une dernière phrase de Paul Ricoeur, qui vient cette fois de la mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est sur le chemin de la critique historique, mais on pourrait dire aussi peut-être la critique anthropologique ou la critique psychologique, que la mémoire rencontre le sens de la justice. Que serait une mémoire heureuse qui ne serait pas aussi une mémoire équitable? Et parce que c'était il y a deux jours les 80 ans d'un très grand écrivain qui n'a pas été épargné ces derniers mois, mais qui a écrit, je crois, des choses remarquables sur les violences de masse. Je vais citer quelques lignes d'un de mes livres préférés de lui. Il s'agit de Milan Kundera et du livre « Du rire et de l'oubli » qui a paru en tchèque en 1978, mais pas évidemment en Tchécoslovaquie, mais en France. Le livre commence, vous vous en souvenez peut-être, par la description par Milan Kundera d'une photographie. Une photographie d'où l'on retire, violence extrême, ceux qui ne peuvent plus être sur cette photographie parce qu'ils ont été assassinés depuis le temps que l'on a pris cette photographie. Donc je ne rentre pas dans les détails de cette photographie. Des photographies comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a ici, en Tchécoslovaquie. Il y en a aussi en Union soviétique. Il y en a dans d'autres pays. Nicolas Vert en a étudié un certain nombre. Et le personnage principal regarde cette photographie et dit « On est en 1971 » et Mirek dit « La lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. » Et puis ça avance un tout petit peu, très peu. Il s'occupe de sa voiture, c'est extrêmement découpé. Et puis il revient à cette idée de violence et d'oubli. Et voilà ce qu'il dit qui me paraît extrêmement important pour nous. Je vous rappelle que Kundera écrit entre 75, 76 et 77. L'assassinat d'Allende a bien vite recouvert le souvenir de l'invasion de la Bohème par les Russes. Le massacre sanglant du Bangladesh a fait oublier Allende. La guerre dans le désert du Sinaï a couvert de son vacarme les plaintes du Bangladesh. Les massacres du Cambodge ont fait oublier le Sinaï, et ainsi de suite, jusqu'à l'oubli complet de tout, par tous. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui pour dire que Kundera a tort.
Voilà. Oui, bravo, bravo, bravo. Et il n'y a vraiment rien à ajouter sur les paroles de Milan Kundera citées par Annette Becker, simplement pour vous remercier d'être venu cet après-midi, d'avoir passé cet après-midi avec nous, même si c'est un sujet un petit peu grave. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère que nous resterons en contact, que vous retournerez sur le site, que vous le ferez connaître et peut-être, qui sait, à l'année prochaine.